Chapitre 46. Écoute, Joe, dit-il le lendemain en guise de salut à son ancien compagnon de travail. Il y a un Français dans la 28e rue qui s'en est mis plein les poches et qui retourne dans son pays. Une blanchisserie à vapeur, impeccable, qui rapporte bien. Un bon départ pour toi si tu veux t'installer. Tiens, prends ça. Achète-toi quelques frusques et sois au bureau de ce gars à 10h. Il te fera faire le tour de la boutique. Si elle te plaît et si tu penses qu'elle vaut son prix, 12 000, fais-le moi savoir et elle est à toi. Maintenant, file, je suis occupé. Je te verrai plus tard. Eh oh, doucement, Marthe, répondit l'autre avec un début de colère. Je suis venu ici pour te voir, crénom d'un chien, je suis pas venu pour une blanchisserie. Je suis venu te parler du bon vieux temps et tu me balances ta blanchisserie à la figure. Tu peux te la garder, ta boutique, et aller te faire voir. Il tournait déjà les talons pour ressortir, quand Martin le saisit par les épaules et le fit pivoter. Écoute-moi bien, Joe. Si tu fais ta mijaurée, je te cogne. Et en souvenir du bon vieux temps, je cognerai fort, crénom d'un chien. Alors, tu y seras, oui ou non? Joe le ceintura et tenta de le renverser. Mais Martin avait l'avantage de la prise. Ils zigzaguèrent dans la pièce, au corps à corps, et s'affalèrent en faisant éclater une chaise de rotin. Joe eut le dessous. Il gisait bras en croix, pantelant, cherchant de l'air, maintenu au sol par un genou de Martin, qui le relâcha en disant « Et maintenant, causons !»« Mais prends-le sur un autre ton. Je veux d'abord régler cette histoire de blanchisserie. Ensuite, tu pourras revenir et on parlera du bon vieux temps. Je t'ai dit que j'étais occupé. Regarde ça. » Un domestique venait d'entrer avec le courrier du matin, toute une pile de lettres et de magazines. « Comment veux-tu que j'examine tout ça en bavardant? Occupe-toi de cette blanchisserie et on se verra ensuite. » « D'accord, » concéda Joe à contre-cœur. « J'ai cru que tu voulais m'envoyer paître, mais j'ai dû me gourer. En tout cas, tu pourrais pas me battre en combat debout, Marthe. J'ai plus d'allonge que toi. » « On enfilera les gants, un de ces quatre, si tu veux, et on verra bien, » répondit Martin avec un sourire. « Pour sûr, dès que j'aurai mis cette blanchisserie en route, » il étendit le bras. « T'as vu cette allonge? Tu pourras pas m'avoir. » Martin poussa un soupir de soulagement quand la porte se referma derrière le blanchisseur. Il devenait asocial. Il avait chaque jour plus de mal à rester courtois avec les gens. Leur présence le gênait. Leur conversation l'irritait. Dès qu'il était en contact avec les autres, il cherchait un prétexte pour se débarrasser d'eux. Il ne s'attaqua pas tout de suite à son courrier. Pendant une bonne demi-heure, il flâna dans son fauteuil, à bâiller aux corneilles. De vagues pensées informulées traversaient de temps à autre son intellect, comme des bulles éparses affleurant à la surface de sa conscience endormie. Il se leva enfin pour feuilleter son courrier, une douzaine de demandes d'autographes, qu'il reconnut du premier coup d'œil, et des lettres d'illuminés. Un homme qui prétendait avoir inventé le mouvement perpétuel, un autre qui démontrait que la surface de la Terre était le contour intérieur d'une sphère creuse, un dernier qui lui demandait un soutien financier pour acheter la Basse-Californie en vue d'y établir une colonie communiste. Il y avait aussi des lettres de femmes qui souhaitaient le connaître. L'une d'elles lui arracha un sourire. Elle avait joint à sa missive le reçu de la chaisière de l'église pour preuve de sa piété et de sa respectabilité. Les rédacteurs et les éditeurs continuaient à l'abreuver de lettres, ceux-ci pour implorer à genoux ses manuscrits, ceux-là pour ses livres, ses pauvres manuscrits si longtemps dédaignés, qu'il affranchissait jadis au prix de 1000 privations. Il y avait également des chèques inattendus de périodiques anglais et des avances pour des traductions. Son agent de Londres lui apprenait la vente des droits de traduction en allemand de 3 de ses livres et l'informait que des éditions suédoises, desquelles il ne pouvait espérer aucune retombée puisque la Suède n'avait pas signé la convention de Berne, étaient déjà en circulation. Enfin, il y avait une demande d'autorisation spéciale pour une publication en Russie, pays qui n'adhérait pas non plus à la convention de Berne. Il parcourut l'énorme liasse de coupures de journaux adressées par son agence de presse et lut ce qu'on disait de lui pour juger de sa cote. Il faisait fureur, sans doute parce que toute son œuvre avait été déversée d'un coup sur le public. Il envahissait subitement l'actualité littéraire. Le même phénomène s'était produit en son temps pour Kipling. Il était près de mourir lorsque la foule, moutonnière comme toujours, s'était soudain jetée sur ses livres. Et cette même foule, après l'avoir porté au pinacle sans comprendre un mot de ce qu'il écrivait, faisant volte-face quelques mois plus tard, s'était brusquement acharnée à le mettre en pièces. « Bel exemple !» songea Martin en ricanant. il n'y avait aucune raison qu'il ne connût pas le même sort avant peu. Eh bien, il leur couperait l'herbe sous le pied. Il mettrait les voiles, cap sur les mers du sud, bâtirait sa maison de feuilles, ferait le commerce des perles et du copra, sauterait les brisants en pirogue, pêcherait le requin et la bonite, chasserait les chèvres sauvages sur les hauteurs de Taïoae. Mais, à mesure que cette pensée se faisait jour, le désespoir de sa situation lui apparaissait. Ses yeux se dessillaient. Il voyait qu'il était entré dans la vallée de l'ombre. Toute la vie qui était en lui se délitait, ternissait, se fondait dans la mort. Il n'avait qu'une envie, dormir. Lui qui avait tant haï le sommeil, voleur de vie, lui pour qui 4 petites heures de sommeil avaient été 4 longues heures de vie perdues. Dieu qu'il avait détesté dormir, Dieu qu'il détestait vivre à présent. La vie n'avait plus de sel, elle ne lui laissait qu'un goût amer dans la bouche. Gare, il était en péril. Une vie qui n'aspire plus à la vie approche de sa fin. Un vague instinct de conservation le stimula. Il était temps de partir. Il regarda dans la pièce et la perspective de faire ses mal l'accabla. Il préféra repousser cela au dernier moment. En attendant, il allait préparer son équipement. Il mit son chapeau, se rendit dans une armurerie et consacra le reste de la matinée à l'achat de carabines automatiques, de munitions et de matériel de pêche. Le négoce suivait les fluctuations de la mode et il savait qu'il devrait attendre d'être à Tahiti pour commander sa marchandise de troc. Les articles pouvaient venir d'Australie ou d'ailleurs. Cette solution lui plut. Il s'était habitué à l'inaction et l'idée de faire quelque chose le rebutait. Il regagna donc son hôtel d'excellente humeur, se réjouissant à la pensée du confortable fauteuil Maurice qui l'attendait. Arrivé dans sa chambre, il grogna dans sa barbe en découvrant Joe dans le dit fauteuil. Joe était enthousiasmé par la blanchisserie. Tout était réglé. Il prendrait possession des lieux le lendemain. Martin l'écouta distraitement babiller, étendu sur son lit, les yeux clos. Il avait l'esprit ailleurs, loin, très loin. Parler lui coûtait un effort. C'était pourtant Joe qui était là, Joe, son vieux copain. Mais Joe aimait trop la vie. Son exubérance agaçait l'esprit meurtri de Martin, tourmentait ses sens fatigués. Quand Joe lui rappela qu'un jour prochain, il se mesurerait à la boxe, il faillit crier. « N'oublie pas, Joe, tu devras diriger la blanchisserie selon les règles que tu as établies à Shelley Hot Springs, » dit-il. « Pas d'heures supplémentaires, pas de travail de nuit, pas d'enfants aux essoreuses, aucun enfant nulle part, et un salaire honnête. » Joe acquiesça et sortit un carnet. « Regarde, j'ai fixé un règlement ce matin avant le breakfast. Qu'est-ce que t'en penses ?» Il lui lut le règlement à haute voix, et Martin approuva, tout en se demandant quand Joe allait enfin se décider à lever le camp. Il se réveilla en fin d'après-midi. Il reprit lentement conscience et regarda autour de lui. Joe avait dû se retirer sur la pointe des pieds en voyant qu'il somnolait. Une gentille attention de sa part, se dit-il. Puis il referma les yeux et se rendormit. Les jours suivants, Joe fut trop accaparé par les préparatifs de son installation pour venir l'importuner beaucoup. Les journaux attendirent la veille de son départ pour annoncer qu'il s'embarquait à bord de la Mariposa. Un reste d'instinct de conservation le poussa à consulter un médecin pour un bilan général de son état de santé. On ne lui trouva rien. Son cœur et ses poumons étaient pleins de vigueur. Tous ses organes, au dire du médecin, étaient normaux et fonctionnaient normalement. « Vous n'avez rien, monsieur Eden, absolument rien. » Vous êtes en parfaite condition. Franchement, j'envie votre santé, elle est superbe. Regardez-moi cette poitrine. C'est là et dans votre estomac que réside le secret de votre remarquable constitution. Physiquement, il n'y en a pas 1000, il n'y en a pas 10 000 comme vous. Sauf accident, vous serez centenaire. Et Martin comprit que le diagnostic de Lydie était exact. Physiquement, il allait bien. C'était son ciboulot qui donnait des signes de faiblesse. Et pour cela, il n'y avait pas d'autre remède que les mers du sud. L'ennui, c'était qu'il n'avait déjà plus envie de partir. Les mers du sud ne le charmaient pas davantage que la civilisation bourgeoise. Il ne ressentait pas l'exaltation des départs. Au contraire, il y voyait une source de fatigue supplémentaire. Il eût préféré être déjà à bord et au grand large. Le dernier jour fut une douloureuse épreuve. Ayant appris son départ par le journal du matin, Bernard Higginbotham, Gertrude et toute la famille vinrent lui souhaiter bon voyage, ainsi que Hermann von Schmidt et Marianne. Puis il lui fallut prendre diverses dispositions, payer des factures, endurer les éternels reporters. Il fit brièvement ses adieux à Lizzie Connolly devant l'école du soir et la quitta sans s'attarder. À l'hôtel, il retrouva Joe, qui avait été trop absorbé par son travail à la blanchisserie pour venir le voir plus tôt. Ce fut sa dernière corvée. Il l'écouta pendant une demi-heure, en s'agrippant au bras de son fauteuil. « Tu sais, Joe, dit-il, tu n'es pas enchaîné à cette blanchisserie. Tu es libre. Tu peux la vendre quand tu veux et claquer l'argent si ça te chante. Dès que tu en auras marre et que tu voudras reprendre la route, ne te gêne pas. Fais ce qui te plaira. » Joe secoua la tête. « Non, merci. La route, c'est fini pour moi. C'est épatant de trimarder, sauf pour un truc, les filles. Je suis un homme à femme, j'y peux rien. Je peux pas m'en passer. Et quand t'es clochard, t'es bien obligé de t'en passer. Chaque fois que je longeais une maison où ça guinchait, que j'entendais les femmes rire, que je voyais leurs robes blanches et leurs visages souriants par les fenêtres, malheur. J'en avais gros sur le cœur, tu sais. J'aime trop la danse, les pique-niques, les balades au clair de lune et tout ça. À moi la blanchisserie avec pignon sur rue et de bons gros dollars de fer dans mes jeans. Pas plus tard qu'hier, j'ai rencontré une fille. Et tu sais quoi? Eh ben, je me dis que je pourrais bien la marier. J'ai siffloté toute la journée, rien que d'y penser. C'est une beauté, avec des yeux de biche et une voix douce comme tout. Ouais, je crois bien que je vais la marier. Et toi, au fait, pourquoi que tu te marierais pas avec tout l'argent que tu flambes? Tu pourrais avoir la plus jolie fille du pays. Martin hocha la tête en souriant et en se demandant secrètement ce qui pouvait pousser un homme à vouloir se marier. Quelle idée folle, incompréhensible. Du pont de la Mariposa, au moment d'appareiller, il aperçut Lizzie Connolly cachée derrière la foule sur le quai. « Emmène-la avec toi, » pensa-t-il. « C'est si facile d'être bon. Elle sera suprêmement heureuse. » Il faillit presque se laisser tenter, puis fut saisi de terreur. Avait-il perdu la raison? Toute son âme se révoltait à cette pensée. Il se détourna de la rambarde en gémissant. « Tu es trop malade, vieux. Tu es trop malade. » Il s'éclipsa dans sa cabine, où il flâna jusqu'à ce que le steamer fût loin des quais. Dans la salle à manger, pour le déjeuner, on le fit asseoir à la place d'honneur, à la droite du capitaine, et il ne tarda pas à découvrir qu'il était le grand homme du bord. Mais jamais on ne vit grand homme plus blasé sur un paquebot. Il passa l'après-midi dans une chaise longue, sur le pont, les paupières closes, en somnolant, et se coucha de bonne heure. Après le second jour, remis du mal de mer, tous les passagers se montrèrent, et plus il les vit, plus il les méprisa. C'était d'ailleurs injuste à leur égard, et il le savait. C'était de braves gens, il était forcé de le reconnaître, de braves gens sans histoire, des petits bourgeois psychologiquement étriqués et intellectuellement futiles comme tous les petits bourgeois. Leur conversation l'assommait, et leur superficialité l'affligeait, tandis que l'exubérance tapageuse et la joie de vivre des plus jeunes l'exaspéraient. Ils n'avaient pas une minute de répit. Ils passaient leur temps à jouer au palais ou aux anneaux, à se promener ou à courir d'un bord à l'autre en piaillant pour regarder les marsouins et les premiers bancs de poissons volants. Il dormait beaucoup. Après le breakfast, il s'installait dans sa chaise longue avec un magazine qu'il ne finissait jamais. Il y avait trop de pages. Il se demandait comment on pouvait trouver tant de choses à écrire et, perplexe, s'endormait. Le gong du déjeuner l'irritait au plus haut point. Il ne supportait pas d'être tiré de son sommeil. Un jour, il essaya de secouer sa léthargie et se hasarda dans le poste d'équipage avec les matelots. Mais il semblait avoir changé depuis le temps où il était des leurs. Il ne se sentait plus chez lui parmi ces brutes, au regard bovin et au front bas. Il était en perdition. Dans les hautes sphères, personne ne s'intéressait à Martin Eden pour lui-même et il ne pouvait pas redescendre dans les bas-fonds où on l'avait aimé. Il ne voulait plus d'eux. Il ne supportait pas davantage les gars de la marine que les frivoles passagers de première classe et les jeunes fêtards du pont supérieur. La vie l'aveuglait comme la lumière blanche aveugle un malade. Dès qu'il ouvrait les yeux, elle brillait partout autour de lui d'un éclat éblouissant. Ça faisait mal, terriblement mal. C'était la première fois que Martin voyageait en première classe. Matelot, il n'avait connu que le poste d'équipage, la timonerie ou les profondeurs noires de la chambre de chauffe. En ce temps-là, lorsqu'il sortait de la cale suffocante par l'échelle de fer et apercevait à la dérobée les passagers, de blancs vêtus, qui paraissaient sous des auvents, entourés de serviles stewards, prompts à satisfaire leurs moindres caprices, il croyait voir des princes en paradis. Et à présent qu'il était des leurs, qu'il était le grand homme du bord, le roi de la fête, assis à la droite du capitaine, il retournait en vain vers le poste d'équipage et la chaufferie en quête d'un paradis perdu. Il n'avait jamais découvert celui qu'il cherchait et ne retrouvait plus celui qu'il avait quitté. Il essaya de se remuer, de s'intéresser à quelque chose et s'aventura dans le mess des officiers. Rien n'y fit. Il parla à un quartier-maître, un homme intelligent qui d'emblée l'abreuva de propagande socialiste et lui fourra dans les mains une liasse de tracts et de pamphlets. En écoutant l'homme lui exposer sa morale d'esclave, il songea mélancoliquement à sa propre philosophie nietzschéenne. À quoi bon tout cela ? Nietzsche, ce fou qui affirmait que la vérité était une illusion. Peut-être avait-il raison, au fond. Peut-être n'y avait-il jamais eu de vérité nulle part. Peut-être que le vrai était déjà une notion fausse. Mais son esprit se fatigua vite, et il fut heureux de regagner sa chaise longue pour une sieste. Dans son désarroi, de nouvelles angoisses l'accablèrent bientôt. Qu'adviendrait-il lorsque le steamer aurait accosté à Tahiti? Il lui faudrait descendre à terre, commander sa marchandise pour le troc, chercher une goélette en partance pour les Marquises, faire mille et une choses qui le rebutaient à l'avance. Chaque fois qu'il trouvait la force de réfléchir à son sort, il mesurait l'ampleur du péril. En vérité, il était bel et bien dans la vallée de l'ombre, et le plus inquiétant était qu'il n'avait pas peur. La peur, au moins, l'eût guidé vers une planche de salut. Un pas vide, il s'enfonçait dans le noir. Ses anciens bonheurs ne lui parlaient plus. La Mariposa était à présent sous les alizés du nord-est, et ses maîtres vents, jadis tant aimés, l'agaçaient désormais. Il fit déplacer sa chaise pour échapper à l'accolade de ses anciens camarades de ses jours et de ses nuits. Quand la Mariposa entra dans la zone des calmes, Martin était plus pitoyable que jamais. Il ne pouvait plus dormir. Saturé de sommeil, il devait maintenant endurer le perpétuel éblouissement de la vie. Il ne tenait plus en place. L'air était humide et poisseux, et les averses ne rafraîchissaient pas l'atmosphère. La vie lui faisait mal. Il marchait de long en large sur le pont jusqu'à ce que la douleur fût insupportable, puis s'asseyait dans sa chaise longue et se relevait bientôt pour reprendre sa déambulation. Il se força à finir son magazine et alla emprunter plusieurs recueils de poèmes à la bibliothèque du bord. Mais la lecture ne le retenait jamais longtemps et il se remettait vite à faire les 100 pas. Un soir, il s'attarda longuement sur le pont après dîner, mais cela ne l'aida guère. Il n'avait toujours pas envie de dormir en regagnant sa cabine. La vie ne lui accordait décidément aucun répit. C'en était trop. Il alluma la lumière électrique et tenta de lire. L'un des recueils était de Swinburne. Il le parcourait distraitement, étendu sur son lit, quand, soudain, une strophe capta son attention. Il la relut, posa le livre ouvert sur sa poitrine et médita. Bien sûr, c'était ça. Comment n'y avait-il pas pensé plus tôt ? La solution était là. Il y avait longtemps qu'il tournait autour, et maintenant, Swinburne lui confirmait que c'était bien la seule issue possible, la seule issue heureuse. Il cherchait le repos, et le repos était là, qu'il attendait. Il regarda le hublot ouvert. Oui, il était assez large. Pour la première fois depuis de longues semaines, il se sentait heureux. Enfin, il avait découvert le remède à son mal. Il éleva le livre et lut la strophe à haute voix. Libérés de nos peurs et de nos espérances, de notre soif de vie, vienne la délivrance. Remercions les dieux que toute vie s'achève. Rendons grâces au ciel que nul ne s'en relève, que même les plus lents et les plus las des fleuves trouvent au fond des mers le repos où ils peuvent. Il regarda de nouveau le hublot ouvert. Swinburne lui avait fourni la clé. La vie était une maladie. En tout cas, elle l'était devenue pour lui. Que nul ne s'en relève. Cette fin de vers le comblait. C'était le seul bienfait de l'univers. Quand la vie n'était plus que souffrance, la mort était là pour endormir la douleur dans un sommeil éternel. Alors, qu'attendait-il? Il était temps de partir. Il se leva, passa la tête par le hublot et contempla l'écume en contrebas. La mariposa était lourdement chargée. Il lui suffisait de se suspendre par les mains pour que ses pieds touchassent l'eau. Il pourrait se laisser glisser sans bruit. Personne ne l'entendrait. Un embrun lui mouilla le visage, imprimant sur ses lèvres le goût du sel. Il se demanda s'il devait écrire un chant du cygne. Non, quelle idée! Il n'avait pas le temps. Il était trop impatient de partir. Il éteignit sa cabine pour n'être pas trahi par la lumière et se faufila à travers le hublot, les pieds devant. Il dut se livrer à quelques contorsions pour faire passer ses épaules. Un mouvement de roulis du bateau l'aida et il surplomba les flots, les jambes ballantes, accrochées par les mains au hublot. Lorsque ses pieds touchèrent l'eau, il lâcha prise. Et voilà qu'il était dans une mousse d'écume. Le flanc de la mariposa défila devant lui comme un mur noir piqueté de hublots éclairés. Avec une telle vitesse de croisière, elle battrait sûrement des records. Presque sans s'en apercevoir, il se retrouva dans son sillage, en train de nager doucement dans un déferlement bouillonnant. Une bonite frappa son corps blanc, ce qui le fit rire tout haut. Elle avait happé un morceau de chair au passage, et la douleur lui rappela pourquoi il était là. Dans l'action, il l'avait oublié. Les feux de la mariposa se fondaient dans le lointain, et il se remit à nager en toute confiance, comme s'il eût voulu rallier la terre la plus proche à un millier de milles. C'était l'instinct de survie. Il cessa de nager, mais dès qu'il sentit l'eau arriver à hauteur de sa bouche, ses mains s'agitèrent pour refaire surface. La volonté de vivre, songea-t-il avec dérision. Eh bien, cette volonté, il la retournerait contre elle-même et l'emploierait à un ultime effort pour se détruire et cesser d'être. Il se mit en position verticale et, levant les yeux vers les étoiles, il vida ses poumons. D'une vigoureuse poussée des mains et des pieds, il se hissa hors de l'eau jusqu'à la taille afin de prendre de l'élan pour la descente. Puis, il se laissa aller et sombra, inerte, comme une statue blanche. Il aspira l'eau à longues goulées, comme l'on fait pour inhaler un anesthésique. Quand il commença à suffoquer, ses bras et ses jambes se débattirent malgré lui et il remonta à la surface, sous le ciel étoilé. La volonté de vivre, songea-t-il encore en tentant vainement de s'empêcher de respirer. Il fallait essayer une autre méthode. Il inspira profondément pour remplir ses poumons d'air en quantité. Ses réserves lui permettraient de descendre plus bas. Il pirouetta et plongea, la tête la première. Il nagea de toutes ses forces, de tout son cœur, et s'enfonça de plus en plus. Les yeux ouverts, il voyait les bonites filer comme des fantômes phosphorescents. Il espéra qu'elles ne l'attaqueraient pas, car cela risquerait de le détourner de son effort. Elles ne l'attaquèrent pas, et il trouva le temps de remercier la vie de cette dernière faveur. Il nagea, nagea, toujours plus bas, jusqu'à l'épuisement. Il savait qu'il était à une grande profondeur. La pression de l'eau sur ses tympans était un supplice et sa tête bourdonnait. Son endurance s'émoussait, mais il contraignit ses bras et ses jambes à l'entraîner plus bas encore, jusqu'à ce que, perdant brusquement tout contrôle sur lui-même, il expulsa violemment l'air qui gonflait ses poumons. Les bulles remontèrent le long de ses joues et devant ses yeux comme de minuscules ballonnets bondissants et, alors, vint la douleur de l'étouffement. Cette souffrance n'était pas la mort, se dit-il, dans une demi-inconscience. La mort ne faisait pas mal. Non, c'était la vie. Cette atroce sensation d'étouffement, le dernier mauvais coup que lui portait la vie. Ses mains et ses pieds se mirent à battre l'eau de tous côtés, dans des soubresauts désespérés. Mais il les avait bernés. Ils avaient beau brasser l'onde, il avait gagné. Il avait vaincu l'instinct de survie. Il était descendu trop bas. Il ne pourrait plus le ramener à la surface. Il croyait flotter langoureusement dans une vision de rêve. Des rayons et des couleurs l'entouraient, le baignaient, le pénétraient. Qu'était-ce ? On eût dit un phare, mais non. C'était dans son cerveau. Un éclair de lumière blanche, une lumière de plus en plus vive. Il y eut un long bourdonnement, puis il eut l'impression de tomber dans un vaste escalier sans fin. Tout en bas, c'étaient les ténèbres. Cela, il le savait. Il sombrait dans les ténèbres. Et, au moment où il le sut, il cessa de le savoir.